Donc nous allons reprendre nos travaux de cet après-midi.
Ça date de janvier, bon, c'est pas fort. C'est un peu dépassé, mais pas totalement.
Voilà, donc notre après-midi va se poursuivre avec l'intervention de Monsieur Pierre Papon, donc le professeur Papon, professeur émérite de physique à l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. Monsieur Papon a travaillé sur la physique des changements de phase. Il a été directeur général du CNRS et président directeur général de l'IFREMER. Il est président d'honneur de l'Observatoire des sciences et des techniques, vice-président du conseil d'administration de la Fondation Maison des sciences de l'homme et conseiller scientifique du groupe Futurible International. Alors, il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, notamment donc publié en 2012 aux éditions du Pommier, un livre consacré aux enjeux de l'énergie, Énergie, la science peut-elle changer la donne, et son dernier ouvrage paru en 2012, À la recherche du futur, prospective 2050, science et société, donc un ouvrage publié chez Albin Michel. Donc Monsieur Papon a intitulé son intervention de cet après-midi « Vers une transition énergétique, des ruptures scientifiques et techniques sont-elles possibles ?» Merci.
Merci d'abord de votre invitation à l'université et aussi à l'espace Pierre Mendès de France et à Anne Bonnefoy. Et donc c'est toujours avec plaisir que je reviens ici à Poitiers. Et je vais focaliser, si je puis dire, mon intervention en tâchant de répondre à la question suivante. Est-ce que des ruptures scientifiques et techniques sont possibles dans le domaine de l'énergie et en particulier dans la perspective d'une transition énergétique? Alors voici le plan de ma conférence. Quelques mots d'introduction. L'énergie est un enjeu historique. Je ne me substitue pas à Muriel Gage, mais une fois m'a dit « Ah, si vous pouvez dire quelques mots d'histoire de l'énergie. » Bon, pas d'histoire d'énergie, mais d'histoire d'énergie. Bon, je vais en dire quelques mots, mais rapidement. Où en sommes-nous dans la consommation d'énergie mondiale? Là, je vais élaguer. Hein. L'intervenant précédent, Jean-Luc Demenet, a bien brossé le tableau de la situation mondiale. Et d'ailleurs, on s'était concerté par l'intermédiaire d'Anne Bonnefoy, donc c'est pas de problème. Et là, je vais insister davantage sur les contraintes fortes qui pèsent sur la transition, en utilisant au moins un scénario, sans rentrer dans le détail des choses. Et puis, je vais, à partir de ces contraintes, m'interroger sur les verrous scientifiques qu'il faut faire sauter, ou techniques, et puis me projeter un peu vers l'avenir. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des percées scientifiques et techniques qui changeraient un peu les choses? Pas complètement. Et puis, quelques mots de conclusion, bien entendu. Alors, l'énergie est devenue, en France, un problème politique. On en parle beaucoup aujourd'hui. La ministre, d'ailleurs, de l'écologie, énergie, etc., a été démissionnée hier pour différentes raisons. Bon. Mais en fait, cette question politique, elle se pose en France, sans remonter à Louis XIV ou encore plus loin, depuis environ un siècle. Depuis environ un siècle. Hein. Je dirais cette question dans sa dimension politique. Le concept d'énergie est un concept très tardif. On a compris que vers 1850, à peu près, et encore, ce qu'était l'énergie, et je ne suis pas certain d'ailleurs qu'on le comprenne complètement, d'ailleurs, on parle d'énergie noire dans l'espace, etc., on ne sait pas très bien ce que c'est. Bon, alors, j'en viens maintenant sur Terre, à la guerre de 14, première guerre mécanisée, avec utilisation de camions, d'automobiles, les fameux taxis de la Marne, de tanks, pour la première fois à la fin de la guerre, d'avions qui nécessitaient pour fonctionner des produits pétroliers et de l'essence. Et la France, qui n'avait pas de pétrole sur son sol ou sous son sol, est alertée et s'est dit comment s'approvisionner en essence. Et le président du Conseil, Clémenceau, en 1917, au moment où les Américains entrent en guerre, envoie un cri d'alarme à Wilson, le président des États-Unis, en disant « Envoyez-nous du pétrole ». Et il a, dans son télégramme, ce n'était pas un SMS, ni bien sûr, il y avait un mail qui aurait pu être espionné par les Allemands. Bon, il dit, dans ce télégramme, « Le pétrole qui sera aussi précieux que le sang de nos soldats pour la victoire finale ». Il faut bien le dire. Wilson répond présent. Il envoie du pétrole. Mais on a été traumatisé après la guerre en disant, là, si ces circonstances se retrouvent, qu'est-ce qu'on fait? D'où des initiatives, les premières du gouvernement français, à l'époque, 1924, Raymond Poincaré crée la Compagnie française des pétroles, en partie publique, qui est l'ancêtre du Total d'aujourd'hui. Hein, quelqu'un a posé dans la salle la question de que fait Total. Ben, création en 1924. Et elle reçoit cette société, la Compagnie française des pétroles, en dotation le quart du capital d'une société qui s'appelait la Turkish Petroleum, les Turcs qui avaient fait la guerre de 14 avec les Allemands et l'avaient perdu, et qui avaient exploité les pétroles d'Irak déjà à l'époque. Les Anglais, les Français mettent la main sur le pétrole et on reçoit le quart, hein, qui est donné à la Compagnie française des pétroles. Une loi en 1928 oblige les compagnies pétrolières à faire des stocks stratégiques pour éviter de se retrouver dans une situation de comme 14. Je vais vite. Après la Deuxième Guerre mondiale, 45-46, création du commissariat à l'énergie atomique, décharbonnage de France. À l'époque, 45, on pensait que le charbon était le combustible majeur pour la reconstruction de la France et de l'Europe. Hein, et puis d'EDF. Donc voilà, des initiatives. Alors, je passe. Hein, 73, programme nucléaire, premier programme nucléaire de grande ampleur en France, après le premier choc pétrolier. Donc tout cela pour vous dire, et insister, ah oui, on parle de l'énergie aujourd'hui, problème politique, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Les Américains, pareil. Les British, pareil. Donc c'est un problème vraiment important. Alors en 2013, la situation, elle est mondiale aujourd'hui. Elle est mondiale parce qu'il y a des contraintes qui sont apparues, et je vais y revenir, et Jean-Luc Domenet en a déjà parlé. Alors, où en sommes-nous? Juste une piqûre de rappel, hein, si je puis dire, d'essence, hein, sur la consommation d'énergie primaire mondiale. Alors, j'utilise des statistiques qui sont légèrement différentes. Ce sont celles de BP qui font foi. Et je pense que Jean-Luc Demney a utilisé celles de l'Agence internationale de l'énergie. La petite différence, c'est sur l'énergie non commerciale. Hein, où là, il y a des incertitudes, le bois, les déchets, etc. Il y a des petites incertitudes, mais c'est pas grand-chose. Donc, en 2012, on a consommé 12,5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Cette unité un peu baroque, hein, que les économistes utilisent. Et c'est vrai que dans le domaine de l'énergie, ceux qui font de l'énergie, vous avez cité d'autres unités, il y a une kyrielle d'unités. Kyrielle d'unités. Pour le gaz, vous ne l'avez pas cité, mais il y a une unité complètement baroque qui s'appelle le BTU, British Thermal Units, qui d'ailleurs est surtout utilisé aujourd'hui par les Américains. Bon, mais il y a des unités complètement baroques. Alors que c'est un domaine où il faudrait faire, je dirais, de l'explication grand public, on utilise les kilowattheures, les TEP, les BTU, etc. Bon, je passe. Donc, l'énergie, je la représente par cette vieille pompe à gazole que vous n'avez évidemment jamais... Vous l'avez connue, peut-être? Oui, moi aussi. Bon. Et il faut avouer, bon, ouais. Alors... Elle contenait, en 2012, 12,5 milliards de tonnes équivalent pétrole. Alors, à propos d'équivalent pétrole, le charbon convertit donc en équivalent pétrole. Si vous brûliez une tonne de charbon dans une chaudière, ce que probablement vous ne ferez jamais, vous l'avez peut-être fait, moi je l'ai fait. Peut-être pas une tonne, mais bon. Vous ne dégagerez que 70% de la chaleur dégagée par une tonne de pétrole. Donc, une tonne de charbon est équivalent à 0,7 tonnes de pétrole, TEP. Donc, voilà, je décline, hein, je répète un peu ce qu'a dit Jean-Luc Demenay, pétrole 32%, le charbon 27%, le gaz 21%, la biomasse bois 10%, le nucléaire 6%, l'hydraulique est un peu sous-estimé, là, 3%. J'ai fait en sorte que ça ne fasse pas 100% pour pas que quelqu'un me dise, mais monsieur, ça ne fait pas 100%, ça fait 101%. Bon. Je fais la somme, pétrole, charbon, gaz, ça fait 80% de fossiles d'énergie non renouvelable. Et ça, depuis 10-15 ans, et en 2013, ça sera probablement pareil. Bon, donc, vous voyez que c'est un point important à retenir. 70% d'énergie primaire avant transformation, comme l'a expliqué Jean-Luc Domenay, c'est du non renouvelable fossile. Alors, là, je passe ces diapos. Simplement, quand même, pour vous rappeler quelque chose qui a été dit, en France, l'énergie finale consommée, c'est environ 556 millions de TEP. un quart d'électricité, du nucléaire, de l'hydraulique, du thermique, de l'éolien. Je dis, c'est en finale. 42% de pétroliers, c'est, produits pétroliers, c'est du kérosène, de l'essence, du fuel, etc. Du gaz naturel pour 23%, du charbon, du bois, de la biomasse, du 11%. Si vous regardiez un peu, j'ai pris cette photo, vous voyez que c'est un Chinois qui est coincé entre un wagon de chemin de fer et un tas de charbon. Bon, mais c'est, mais bon, peu importe. Hein. Donc voilà, voilà le panorama français. Voilà le panorama français. Et ce, pour insister sur ce que vous avez dit, que les Chinois, eh, bon, ils consomment, ils envoient beaucoup de CO2 dans l'atmosphère parce qu'ils utilisent beaucoup de charbon. Bon, alors, où cette énergie est-elle consommée? Je passe, et j'en viens maintenant au présent et au futur. Quelles sont les contraintes pour la consommation d'énergie, la production et la consommation d'énergie dans le monde, dans le monde? Je schématise, il y a deux grandes contraintes. La première, Jean-Luc Dominet en a parlé abondamment, c'est le défi climatique. Qu'illustre cette photo d'une centrale thermique récente, hein, polonaise, pas pareil. Et les Polonais produisent 90% de leur électricité du charbon. Hein. Je ne sais pas où c'est, mais vous voyez, en premier plan, il y a une mine à ciel ouvert, c'est probablement de la lignite, et ils produisent l'électricité sur le carreau de la mine, ils ont raison. Bon. Et là, comme on l'a dit, la consommation de combustibles fossiles envoie du CO2 dans l'atmosphère. Les climatologues sont unanimes sur cette question-là. Il y a quelques dissidents, mais ce n'est pas des climatologues. Hein. Donc, ils sont unanimes et il y a un risque de réchauffement climatique de 2 à 6 degrés. Hein. Donc, Jean-Luc l'a dit, d'où le débat mondial commencé à Copenhague en 2009 dans une conférence sur le climat organisée par l'UNESCO, avec chaque année... On fait une piqûre de rappel. La dernière, c'est à Doha, au Qatar, qui doit envoyer pas mal de CO2 dans l'atmosphère, d'ailleurs. Bon. Et où on se dit, comment arriver à limiter le réchauffement climatique? En principe, un traité international devrait être signé à Paris en 2015. Hein. Paris a invité les grands de ce monde et les petits aussi à venir pour s'accorder enfin sur un traité climatique. Bon, ça, c'est la première contrainte. On la présente à l'esprit. Deuxième contrainte, je vais vite, il y a une limitation majeure, la disponibilité de ressources avec la dimension géopolitique, j'en parle pas, hein, Jean-Luc Dominet l'a bien traité. Alors vous voyez, ce technocrate qui est juché sur un baril de pétrole, il essaye avec des lunettes, enfin plutôt des jumelles, de regarder quel est l'avenir des réserves. Le pétrole conventionnel, il dit à peu près 40 ans. Hein, c'est les experts pétroliers à peu près 40. Je dis bien conventionnel, c'est-à-dire pas le pétrole sous l'Arctique, pas le pétrole extrait des schistes bitumineux. Je dis schistes bitumineux, 40 ans. Le gaz naturel, il y a quelques années, les experts disaient 60 ans. 60 ans au rythme de consommation actuel. On dit maintenant peut-être bien 100 ans. Peut-être bien 100 ans parce que gaz de schiste, gaz de houille, qui permettrait, si c'était exploité, je dirais, d'aller plus loin. Plus des réserves de gaz qui ont été découvertes récemment, au Mozambique par exemple. Il y a peut-être des gisements dans des îles qui sont possession française et que personne ne connaît, une île qui s'appelle Jean-Noua-Nova, et des îles qui s'appellent les îles Éparses. Si quelqu'un dans la salle sait où c'est. Bon. C'est dans l'océan Indien, entre les îles Éparses, entre Madagascar et Mozambique. Au moment de l'indépendance de Madagascar, on ne leur a pas donné les bonnes cartes. Et on a gardé un certain nombre d'îlots qui sont intéressants parce qu'il y a des stations météo. Il semblerait qu'il y ait du gaz offshore. Bon, je ferme ma parenthèse. Charbon, 150 ans, pas d'inquiétude à avoir, sauf que ça envoie pas mal de saleté dans l'atmosphère. L'uranium, des centrales nucléaires classiques, c'est-à-dire des centrales françaises, japonaises, américaines, 80 ans. C'est pas beaucoup, pas beaucoup. Eu égard au fait que la durée de vie d'une centrale nucléaire, c'est 50-60 ans. Celle qu'on construit dans les années qui viennent, pas de problème. Mais dans 10-20 ans, il faudra se poser la question. Et j'y reviendrai dans un instant. Donc, dimension géopolitique, Jean-Luc Dominet a parlé, je n'insiste pas. Donc, conclusion. L'exploitation massive d'énergie carbonée n'est pas durable. Ce qu'illustre cette photo d'une plaque de rue que j'ai prise en Italie, en trichant sur la traduction de l'italien carbone, qui ne veut pas dire carbone en italien, mais charbon, la rue du carbone est devenue une avenue et va se transformer en une impasse. Donc, c'est assez caractéristique. Ceux qui connaîtraient l'italien, en petites lettres, c'est Giavicolo del Carbone, ce qui en italien veut dire petit chemin du carbone. Bon, je triche. C'est une rue qui n'est pas une très grande rue, mais une rue, avenue, impasse. Alors, pour les raisons que j'ai dites, réchauffement climatique, épuisement des réserves. Alors, que faut-il faire ? Que faut-il faire si on se dit on ne peut pas continuer comme ça, pour les raisons que j'ai dites ? Et ce que font les économistes et certains scientifiques, c'est de faire des scénarios. De faire des scénarios, c'est-à-dire qu'on imagine, moyennant certaines hypothèses, un chemin vers l'avenir. Par exemple, jusqu'en 2035. Si on fait l'hypothèse qu'on se met, si je puis dire, dans les rails de Copenhague, limité à 2 degrés de réchauffement climatique, ce qui est déjà tangent, hein, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je reprends ma pompe. En 2010, on était à 10 gigatep, en 2012, 12,5, hein, 80% de fossiles. Et on se dit, ben, une possibilité, c'est qu'en 2035, notre pompe à énergie, elle a grandi, elle fait 15 gigatep, parce qu'il y a des gens qui se développent, ils ont besoin d'énergie, on peut faire des économies, mais les Chinois, les Africains, ils ont besoin d'énergie. Bon. Mais elle a minci, elle est passée à 63% de fossiles, ce qui est un effort énorme de passer de 80% à 63% en même pas 35 ans, parce qu'en 2012, on en est au même point. Donc, disons, en 25 ans, faire cet effort-là. Et ça, c'est une vraie rupture. Et c'est ce qu'on qualifie de transition énergétique, c'est-à-dire une transition vers moins d'énergie carbone. Alors, ce scénario, il impose des très fortes contraintes. Des très fortes contraintes sur les filières énergétiques. On ne s'intéresse pas tellement aux chiffres, hein, mais ces courbes en couleur, elles indiquent les contributions ou la variation des différentes filières après 2010, hein, les pointillés. Le pétrole, la courbe en rouge, va continuer à monter. Hein, dans ce scénario, je dis bien, jusqu'à peu près 2020. Pourquoi ? Il n'y a pas d'alternative encore crédible aux produits pétroliers pour les transports. Ça, c'est un gros problème. Hein. Et après, ça tombera. Bon. La courbe en noir, la pointillée après 2020, qui monte très fort jusqu'en 2020, il va tomber après, c'est celle du charbon. Il faut bien alimenter en charbon les centrales chinoises, polonaises, un peu allemandes d'ailleurs, ils ne le disent pas trop. Hein. Et ça tomberait après. Le violet qui monte, là, c'est le gaz. Le gaz naturel monterait assez fortement jusqu'en 2025, parce que le gaz naturel il est facile à utiliser. Et à calories égales, il envoie moins de CO2 dans l'atmosphère que les mélanges de gaz, disons, qu'on peut avoir, et a fortiori que le charbon. Bon. Donc, gaz naturel monterait. Et puis, la courbe en grisé qui monte très, très fort, c'est la part des énergies non carbonées, qui passerait de 20% à 37%. 37%, c'est 100% moins 63%. Donc, une très forte poussée du non carboné, avec toutes les courbes ici en dessous. Le vert, c'est la biomasse. Le jaune qui monte fortement, c'est le nucléaire. Mais point d'interrogation après Fukushima, hein, bien sûr. Ça, c'est fait après Fukushima. Le vert cacadois, c'est les énergies renouvelables du style éolien solaire. Et puis le bleu qui monte pas fort, c'est l'hydraulique. Parce que la plupart des grands fleuves sont équipés en barrages, sauf en Afrique centrale, probablement au Brésil et peut-être en Chine. Donc vous voyez, il faudrait diminuer la part du charbon, d'augmenter celle des énergies renouvelables, du nucléaire, les biocarburants et de l'hydraulique, là où on peut. Donc je répète ce que je viens de dire, c'est un scénario qui vise à diminuer de 50% la consommation, pas la consommation, les émissions mondiales de CO2 d'ici 2050, c'est en quelque sorte le cœur du sujet pour la transition énergétique mondiale, appliquée à chaque pays, pareil. Ça, je viens de le dire. Alors, il y a d'autres scénarios possibles. Scénario que je baptise, c'est le Grenoble, ce sont les économistes du CNRS et de l'Université Mendès France, d'ailleurs, à Grenoble, qui sont parmi les meilleurs, disons les meilleurs d'Europe, hein, j'en parle à l'aise, hein, je ne suis pas dans leur labo, bon, mais c'est vraiment les meilleurs d'Europe, en modélisation des systèmes énergétiques ou d'économie d'énergie. Alors eux, ils disent fossiles 2050, 49%, nucléaire très fort, 19%, biomasse très forte, 19%, renouvelable, solaire et éolien, pas très fort, 13%. Alors, la France, il y a un débat en ce moment, et je n'insiste pas, sur les hypothèses qu'on peut faire. Probablement une loi votée par le Parlement début 2014, à horizon 2020, avec quelques hypothèses sur 2030, parce qu'aller au-delà, en termes législatifs de 2030, ça n'a pas tellement de sens. D'ici 2030, il peut se passer d'ailleurs pas mal de choses. Mais vraisemblablement une baisse de la consommation d'énergie primaire de 20% en France d'ici 2030, ce qui est beaucoup, compte tenu du fait que la population française va augmenter, qu'on peut espérer qu'il y aura une reprise économique. Ça, c'est moins sûr, mais bon, c'est des hypothèses quand même qu'il faut faire. Le nucléaire pour l'électricité chuterait à 50%. 2050, est-ce qu'on parviendrait à diviser par deux la consommation d'énergie en France? Ça, c'est en débat. Le débat, il n'ira pas loin, parce que discuter ce qui va se passer entre 2030 et 2050, je répète, ça n'a pas grand sens. Bon. Donc voilà les hypothèses. Je rappelle pour mémoire que l'Allemagne, en 2050, s'est fixée. Alors je dis ça n'a pas grand sens, mais eux disent en 2050, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, et on produira 80% de notre électricité, les Allemands, hein, par des énergies renouvelables. Ce qui est un pari technique et industriel énorme. Bon. Mais ils font cette hypothèse. Ils sont sortis du nucléaire. Enfin, ils ont décidé de sortir du nucléaire. Alors j'en viens maintenant au chantier clé de l'énergie du futur, c'est ma dernière partie et la plus longue. Il va falloir, si on fait cette hypothèse d'une transition énergétique, en France comme ailleurs, hein, des développements scientifiques, techniques et industriels, notamment pour faire sauter des verrous techniques. Hein. Juste, j'en parlerai, stockage de l'électricité, notamment pour les batteries de voitures, problème pas bien résolu. Et ça, un problème technique. Hein. Bon, j'en dirai deux mots. Et préparer l'avenir au-delà de 2030. Hein. Je me poserai la question, mais j'irai quand même vite. Alors, il y a plusieurs chantiers. Plusieurs chantiers. Sur chacun d'eux, je vais donner un coup de projecteur. Les nouveaux carburants, des nouveaux moteurs, j'en dirai pas grand-chose. Des nouveaux moteurs thermiques, et là, il y a de la marge. Hein, il y a de la marge. On peut descendre la consommation, peut-être, d'une voiture moyenne à 2,5 litres, 3 litres. Les Japonais préparent, distillent une voiture à 2,5 litres aux 100 km. Pour l'instant, je crois que c'est en moyenne, c'est du 6 litres. Bon, donc il y a de la marge. Hein, il y a de la marge. Les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. Je ne parlerai pas de l'éolien, non pas que ce n'est pas important, mais il n'y a pas vraiment de rupture hein, nécessaire. On sait construire aujourd'hui des turbines pour éoliennes de 7 MW de puissance. La puissance d'une rame de TGV Atlantique, des moteurs, c'est 8 MW hein, pour une rame. Donc, il ne s'agit pas de mettre une éolienne sur le train, mais vous voyez, c'est une puissance équivalente. Et les industriels travaillent dans la perspective 10-20 MW pour les turbines. Je ne dis pas que ça se fait en un tour de main, mais il n'y a pas besoin de rupture. Le solaire, en revanche, il y a besoin. Enfin, c'est mon point de vue. Produire de l'électricité avec le nucléaire, je vais en dire quelques mots. Stockage, distribution et gestion d'électricité, problème majeur. Problème dont je ne parlerai pas, non pas qu'il ne soit pas important, c'est la séparation et le stockage souterrain du CO2. Parce qu'on peut dire, bon, très bien, hein, il ne faut pas envoyer le CO2 dans l'atmosphère, mais si on capte le CO2 dans les fumées, qu'on l'enterre dans un ancien gisement de charbon ou pétrolier, on se débarrasse du CO2. On sait faire, mais ça coûte cher. Donc le problème, il est à la fois technico-économique. J'en parlerai pas. Je connais peu le sujet, d'ailleurs, mais il est surtout économique. Alors, je reviens à l'histoire. Est-ce qu'on a déjà eu des ruptures dans le passé en matière d'énergie? Oui, oui. Sans remonter aux Grecs ou aux Romains, le fait majeur, la rupture majeure, c'est l'introduction du charbon et de la machine à vapeur en Angleterre au XVIIIe siècle, à l'époque, suite à une première crise énergétique en Angleterre. Déforestation massive en Angleterre au XVIIe siècle pour du bois de chauffe, pour la métallurgie et évidemment la construction navale. d'où crainte d'une déforestation, et dit Royaux, il faut limiter l'exploitation forestière, etc. Bah, les Anglais qui avaient du charbon sous les pieds, ils ont dit on va extraire le charbon. Et puis, concomitamment, introduction de la machine à vapeur par Newcomen et Savary en 1712. C'est une rupture, c'est un nouveau paradigme, la machine à vapeur. Pourquoi ? Parce que c'est pour la première fois, on a transformé de la chaleur en travail. On ne savait pas ce que c'était à l'époque. Le concept d'énergie n'existait pas. On dit, mais aujourd'hui, la chaleur, le travail, c'est d'énergie. Et on a raison. Mais à l'époque, on ne savait pas. Mais c'est vraiment un changement de paradigme technique. Pour la première fois, on utilise la chaleur pour faire du travail. Alors, on mettra plus d'un siècle pour comprendre ce que c'était, et même Carnot n'avait pas compris. Alors, la science peut être à l'origine de rupture, à travers des découvertes, des théories nouvelles. Je donne l'exemple du nucléaire, découverte de la fission d'uranium 1938, précédée par un certain nombre de travaux de physiciens auparavant. On célèbre cette année, ça ne fait pas beaucoup d'éclat dans la presse, mais le centenaire de l'atome de Bohr, publication par Bohr de la structure de l'atome. Et puis après, on a fait de la physique nucléaire, etc. Découverte de la fission de l'uranium en 1938, ça a ouvert la voie à l'énergie nucléaire en passant par Hiroshima en août 1945. Découverte de l'effet photovoltaïque dans le silicium au Bell Lab, en 1955, on connaissait l'effet photovoltaïque, mais on ne l'avait pas mis en évidence dans un semi-conducteur comme le silicium. Ça, c'est une innovation majeure qui permet le développement du photovoltaïque. Depuis lors, il n'y a pas eu tellement d'innovations importantes, de ruptures majeures dans le domaine de l'énergie. On fait des progrès, oui, mais il n'y a pas eu de ruptures majeures. Peut-être les batteries au lithium, oui, peut-être. Alors, j'y vais. Je donne quelques coups de projecteur. Moteur carburant. Supposons qu'on maintienne les moteurs thermiques. Les moteurs thermiques, on peut les faire fonctionner, bien sûr, avec de l'essence, éventuellement avec de l'hydrogène d'ailleurs. Bon, mais ça pose un problème. Je ne parle pas des piles à combustible. Et puis, les biocarburants, on le sait, j'insiste pas là-dessus. Cette diapositive illustre un peu ce qu'on sait faire. On prend par exemple du maïs. Les grains de maïs, c'est de l'amidon. On les transforme en sucre avec une enzyme. On fait fermenter le sucre et ça donne de l'alcool. C'est vieux comme Mathusalem, ça. Et on peut mélanger l'alcool, enfin l'éthanol, à de l'essence, et on a un biocarburant. Bon, on peut faire la même chose avec des corps gras, on a des estérifiants, c'est le biogazole. On sait faire. Mais vous avez sans doute présente à l'esprit une question. Peut-on vraiment penser utiliser de la biomasse alimentaire pour faire des carburants, alors que dans les années qui viennent, on aura des crises alimentaires, on en a déjà eu, augmentation de la population mondiale, etc. Donc, ce n'est pas raisonnable. Ce qui n'empêche pas les Américains de le faire. Mais bon, ils essayent de trouver une alternative. Que pointe cette flèche verte qui serait d'utiliser non pas les grains de blé ou de maïs, mais par exemple les rafles de maïs, la paille, des déchets végétaux. Pourquoi ? C'est de la cellulose. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un mélange de polymères et de lignocellulose. Et donc, la cellulose, c'est un sucre. Un polymère de glucose, on le coupe en petits sucres, si je puis dire, avec une enzyme, on fait fermenter, on a de l'alcool. C'est ce qu'on appelle des biocarburants de deuxième génération. On sait faire. Les rendements ne sont pas extraordinaires. Il y a deux usines prototypes en cours de construction en France. Mais il y a peut-être une rupture possible. Peut-être une rupture possible. Ça serait, là je ralentis, de fabriquer des génomes, c'est-à-dire des ensembles de gènes, de façon complètement synthétique, de reprogrammer ces génomes, des génomes de bactéries, de levures ou de microalgues, de les reprogrammer, les introduire dans les bactéries, levures ou algues, de façon à ce qu'elles produisent avec un très bon rendement des enzymes synthétiques qu'on pourrait utiliser pour dégrader la cellulose, voire des carburants. Alors, est-ce que c'est possible ? La réponse, elle est oui. Elle a été donnée par deux publications, 2009-2010, d'Américains, dont l'un, Craig Venter, était celui qui avait participé au séquençage du génome humain. Et la vision qu'ont les Américains, notamment Craig Venter, c'est de fabriquer des carburants comme ça. Des carburants comme ça, directement, par manipulation génétique. C'est ce qu'on appelle la biologie synthétique. Donc, c'est une possibilité. Pourra-t-on remplacer tous les carburants par ça ? Sûrement pas. Mais peut-être faire 2030-2035, 20 à 25% de carburant par ce biais-là, si on a des bons rendements. C'est une rupture possible. Rupture possible. Alors, on fait des OGM, hein, des OGM bactériens, hein, par une synthèse complète de leur génome. Ça, c'est une illustration de quelque chose d'un peu semblable. Publication récente, hein, dans Science du 30 mars 2012. Là, on a une petite cellule électrique à gauche, alimentée par exemple en électricité par une cellule photovoltaïque. La cathode est en indium, hein, elle est représentée à gauche, à droite, pardon, et on fait la réduction du CO2 par le courant électrique en présence d'un catalyseur qui est l'indium. Ce CO2 est transformé en acide formique, hein, c'est un peu de chimie, il est absorbé ici par une bactérie qui s'appelle Ralstonia eutropha, ne m'en demandez pas trop parce que je ne pourrais pas vous donner de détails sur la bactérie, modifiée génétiquement. On n'a pas fait la synthèse de son génome, mais on l'a modifiée génétiquement et produit de l'isobutanol. L'isobutanol est un alcool qui est intéressant, pouvoir calorifique supérieur à l'éthanol, et il n'est pas miscible à l'eau. Pas miscible à l'eau, ce qui évite de distiller où on perd de l'énergie quand on produit de l'éthanol. Donc je pointe un peu d'eau là, j'espère qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Bon, ça va. Alors, autre possibilité, donc je donne quelques coups de projecteur, hein, c'est le cas de le dire avec le photovoltaïque. Hein, mais... Donc, le photovoltaïque, je ne vais peut-être pas en parler de trop, parce que je pense que demain, on en parlera. Mais je rappelle quand même, ça ne fait pas de mal, que le soleil, il nous envoie généreusement 6000 fois, certains disent 7000, mais on n'est pas à 1000 près, l'énergie quotidienne dont on a besoin. Bon, et donc on ne l'utilise pas. Hein. Ou très peu, très peu. D'où considération que c'est une énergie complètement renouvelable, quasiment éternelle, hein, à l'échelle de nos civilisations. Bon, alors on peut produire l'électricité avec ça, c'est connu. Qu'est-ce qui se passe? Les petits photons du soleil, ils éjectent de plaquettes en silicium ici vraisemblablement, les électrons qui débitent dans un circuit électrique et on produit l'électricité. Bon, donc là, c'est au point... Le rendement avec le silicium, il est de 20%. Non pas qu'on s'y prenne mal, mais le silicium n'absorbe qu'une partie du spectre solaire. Il n'absorbe pas bien dans l'infrarouge, un peu dans le rouge, mais pas bien dans l'infrarouge. Bon, à que ça tienne. Hein, on peut utiliser, et on parlera sans doute demain, Sonier, d'autres semi-conducteurs, du tellurure de cadmium, de l'asga, faire des multicouches. Ça marche, mais ça coûte très cher. On peut avoir des rendements de 40%. C'est ce qu'on fait sur les panneaux solaires, mais là, on ne regarde pas la dépense. Hein. C'est peanuts, hein. Les panneaux solaires à côté du coût de la fusée et du satellite. Et donc, on a des rendements de 40%. Mais faire ça, je dirais, de façon pratique, ça ne tient pas complètement la route. Donc là, il y a un effort à faire, j'insiste là-dessus. Technique, il y a quand même un verrou à faire sauter, parce que le silicium, il a donné le maximum de ce qu'il peut donner. Les coûts des panneaux solaires au silicium ont chuté fortement, notamment sous l'effet de la concurrence chinoise, de l'industrie chinoise, avec tous les débats qu'on a en ce moment en Europe et aux États-Unis. Mais de toute façon, mais les Chinois ont aussi des problèmes avec les entreprises. Hein. Il y a pas mal d'entreprises chinoises qui sont au bord de la faillite. Hein. Donc on sait que le silicium, c'est bien, mais il faut essayer de trouver autre chose. Bon, j'insiste pas beaucoup là-dessus, je pense que ça sera longuement évoqué demain. Simplement, je dis, la rupture, qu'est-ce qu'elle pourrait être, la rupture? Ben, une rupture possible, ça serait d'utiliser des matériaux organiques, matières plastiques, disons, qui sont des semi-conducteurs, comme le polyacétylène, qu'on peut doper. Une technique qui a été mise au point par des Suisses à Lausanne, à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui, par parenthèse, est probablement une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Europe. Hein. Et ils ont fait du plastique. Ils ont pris aussi de l'oxyde de titane, qui est un semi-conducteur enrobé d'un colorant synthétique. Ils ont intégré un électrolyte solide. Ils ont des panneaux solaires en plastique, rendement pas extraordinaire, 9 à 10%, mais dont le prix défie toute concurrence. En plus, un panneau plastique, vous pouvez le mettre sous votre bras, l'emporter, le mettre sous votre maison. Bon, donc c'est quand même intéressant. Donc, s'il y a rupture, ça serait d'avoir des plastiques ou matériaux organiques avec un rendement qui serait voisin de 20%. Pas impossible qu'on y arrive. Et puis, simplement, je le mentionne, bon, des systèmes avec une absorption multiphotonique qui absorberait plusieurs photons d'un coup avec des matériaux, avec des effets nouveaux. Donc là, ce n'est pas impossible que des nouveaux phénomènes permettent des ruptures pour le photovoltaïque. Autre possibilité, toujours avec le soleil, la photolyse de l'eau. Qu'est-ce que c'est que la photolyse de l'eau? Ben, c'est la décomposition de l'eau par la lumière naturelle, par la lumière solaire. Bon. Les plantes savent faire ça très bien, avec un rendement d'ailleurs déplorable, mais ça très bien. Bon. Là encore, manip faite par les Suisses, les mêmes, toujours de Lausanne d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent un récipient, ils mettent de l'eau, ils mettent une cellule silicium, et l'électricité va produire, réaliser l'électrolyse de l'eau, moyennant deux catalyseurs. Toujours un problème. Deux catalyseurs, par exemple, sur la face illuminée éteint cobalt-nickel, alliage cobalt-nickel, sur l'autre face molybdène, on dégage de l'hydrogène sur la face opposée à la lumière. Cet hydrogène, on peut l'utiliser, on pourrait l'utiliser dans une pile à combustible. Hein. La pile à combustible, elle fait le contraire de l'électrice de l'eau. Elle recombine l'hydrogène, l'oxygène avec un catalyseur et pour l'électricité. Donc on pourrait faire ça. Ou alors, combiné avec du CO2 et un autre catalyseur, de faire des hydrocarbures. Donc ça, c'est une voie possible. Pour l'heure, les rendements de cette affaire-là ne sont pas bons. Mais c'est une voie possible dont on ne parle pas souvent, c'est faire de la chimie avec le soleil, moyennant encore des catalyseurs. Par parenthèse, les problèmes de catalyse dans le domaine de l'énergie sont des problèmes clés. C'est vraiment une clé, on les trouve là, on les trouve pour la pile à combustible, on les trouve aussi dans l'industrie pétrolière. Donc c'est un problème clé. Oui, ça c'est l'autre voie du solaire dont je passe. Allez. Alors maintenant j'en viens au nucléaire. Quand même un mot sur le nucléaire. Quel est l'avenir du nucléaire après Fukushima? Dans le monde et en France en particulier. Compte tenu de ce qu'était l'accident, je ne reviens pas là-dessus. Sachant aussi que les réserves d'uranium, c'est 80 ans. Ce n'est pas énorme. Hein, donc, et qu'en France, on produit 75% d'électricité avec du nucléaire. Bon, alors, si on n'a pas d'alternative aux centrales nucléaires fonctionnant à l'uranium pur et simple, un avenir qui n'est pas radieux, 80 ans. Alors, il y a une alternative qui consisterait à utiliser le plutonium qui est produit dans le réacteur à partir du combustible qui est l'uranium. Dans les réacteurs français et les autres, d'ailleurs, on prend un combustible qui est l'uranium 235. Enfin, on enrichit l'uranium en uranium 235 à 4,5%. Mais pendant la fission, l'uranium 238 absorbe un neutron et produit du plutonium. Plutonium qui est fissile. On peut le mélanger à l'uranium, ce qu'on fait en France, pour, comme combustible nucléaire, ou faire la bombe atomique, hein, j'entends. Bon. Et on sait que ça marche. L'avantage, c'est qu'avec une charge d'un réacteur en uranium, vous pourriez produire 10 à 15 charges de plutonium pour un réacteur fonctionnant en plutonium. Ce n'est pas un miracle, hein, c'est les lois de la chimie nucléaire. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle les surgénérateurs, parce que vous produisez plus de combustible que vous en avez utilisé. Le problème, c'est que la densité d'énergie dans le cœur du réacteur est très importante, hein, et qu'il faut extraire l'énergie avec un fluide caloporteur qui a une forte capacité calorifique. Quoi, hein. Alors, la possibilité, c'est de prendre un métal liquide, le sodium, ce qui a été la voie française, avec les prototypes qu'on a eus, Superphénix, Phénix, qui posent quand même quelques problèmes. Hein, le sodium fondu, avec la vapeur d'eau, c'est explosif, etc. Bon. On peut aussi, mais ce n'est pas la voie française, c'est celle que veulent utiliser les Indiens parce qu'ils ont pas mal de thorium comme métal, enfin comme minerai, c'est des sels de thorium fondus qui serviraient à la fois de combustible et de fluide caloporteur. Ça sera un avantage. Le problème, c'est qu'il faut être certain que cette affaire marche dans des bonnes conditions de sûreté. Réponse 2030-2035. Hein, pas avant. Si c'est le cas, l'avenir du nucléaire serait assuré à condition, bien sûr, qu'on soit certain de la sûreté. On se débarrasse quand même du plutonium parce qu'on le met dans le réacteur, mais il y aurait quand même toujours des déchets dont il faut se débarrasser. Bon. Donc là, c'est une possibilité qui donnerait un nouveau souffle au nucléaire. Alors la rupture des ruptures, ça serait, il ne faut pas l'exclure, une nouvelle théorie qui mettrait au jour des relations nouvelles entre la masse et l'énergie. C'est un gros problème de la physique depuis Einstein, depuis qu'il a démontré E égale mc au carré en 1905. Et à l'époque, quand il a, dans une publication qui est extrêmement courte, sa publication de 1905, où il montre le principe d'équivalence masse-énergie, E égale mc au carré, c'est 3 pages très claires. Personne n'avait envisagé, un petit peu lui, que ceci pourrait déboucher E égale mc au carré sur l'explication du phénomène de la fission. Donc il ne faut absolument pas exclure que dans 20, 30 ou 40 ans, on rebatte les choses, les cartes, je veux dire, en physique. Hein. Bon. Mais il ne faut pas attendre ça pour prendre des décisions. Bon. Alors maintenant, le long terme possible, c'est aussi peut-être la fusion thermonucléaire, c'est faire le contraire de la fission. Qu'est-ce que c'est que la fusion ? On prend 2 atomes légers, hydrogène, par exemple 2 isotopes, de thorium, tritium, on les porte à très haute température, 150 millions de degrés, hein, c'est quand même pas rien. Hein, ils rentrent en collision et ils dégagent l'énergie de fusion thermonucléaire. Il y a un atome d'hélium qui est produit, un neutron qui s'en va avec de l'énergie. Bon, c'est ce qui fait marcher le soleil, la bombe à hydrogène, et puis on sait faire ça dans des petits réacteurs qui tiennent comme 10 fois cette pièce. Hein, bon. Mais il faut aller à une étape supplémentaire. C'est l'objet d'un programme international, le programme ITER, hein, qui a un acronyme pour International Thermonuclear Experimental Reactor, qui doit être construit à Cadarache sur un site du CEA. Cadarache, c'est dans les Bouches-du-Rhône, près de Manosque, qui implique l'Europe, la Chine, le Japon, les États-Unis, enfin, disons, toutes les grandes puissances mondiales. Vous voyez le petit rond qui entoure le personnage, qui vous donne une idée de la taille du réacteur expérimental. Ça doit faire 20 mètres de circonférence dans le cœur du réacteur qui a une forme de tore. Et on va réaliser la fusion là-dedans. Pas de résultat avant 2030. Je mets 2 points d'interrogation. J'en peux en mettre 3 ou 4 parce que ce n'est pas certain que ça marche. Hein, quoi que disent les protagonistes de l'affaire, ce n'est pas certain que ça marche. Il peut y avoir des mécanismes du style turbulence qui foutent tout en l'air. Bon, donc ce n'est pas évident. Si ça marchait, ça serait vraiment une rupture. Très incertain. Je termine maintenant, vous me direz si je dépasse mon temps. Bon, allez, j'accélère. L'autre rupture, c'est le problème de l'électricité, notamment produite avec des sources intermittentes, ce qu'on appelle électricité intelligente, non pas que l'électricité actuelle soit stupide, mais c'est la capacité qu'aurait un réseau électrique à accepter de la puissance produite par des grandes centrales, des barrages, des centrales nucléaires, des turbines à gaz, et constante. Et puis des sources locales, entre guillemets, intermittentes, du style centrale solaire. C'est bien que le photovoltaïque ne marche pas la nuit. Hein. Les éoliennes, d'ailleurs, si vous prenez le train sur la ligne Paris-Bordeaux, vous verrez que très souvent, les éoliennes, elles ne tournent pas. Hein. Donc, parce que quand il n'y a pas de vent, ça ne tourne pas. Bon. Donc, il faut que les réseaux soient capables d'accepter ces 2 puissances, surtout si elles sont fournies à haute dose, les puissances intermittentes. C'est le problème donc des smart grids, qui est la traduction des 2 mots anglais, smart et grid. C'est un enjeu très important pour l'avenir de l'énergie et de l'électricité. Si on pouvait le faire, il y a des obstacles techniques, mais ils ne sont pas considérables. Ça serait vraiment une rupture parce qu'on gérerait autrement l'électricité. Ce qu'on fait, si quelqu'un qui a des panneaux solaires sur sa maison, il est à la fois consommateur et producteur. Et ça, de le faire assez systématiquement, ça veut dire des capteurs, des lignes électriques, du stockage, etc., et des compteurs pour piloter la consommation locale. Il y a une petite expérience dans le département voisin de l'Indre-et-Loire, les compteurs Linky, il y a 2-3 ans. L'objectif de EDF, ce n'était pas de faire des économies d'électricité à leurs clients, mais c'était de relever à distance les compteurs électriques. C'était ça leur objectif. Hein. Bon, j'ai discuté avec quelqu'un d'EDF sur place, il m'a dit oui, oh bah oui, maintenant, évidemment, hein, nous, on n'aura plus rien à faire, etc. Bon, allez. Je termine par un point clé qui est le stockage de l'électricité. Non, à la fois les batteries de voiture et le stockage de l'électricité produite par des centrales intermittentes. Ces 2 diapos illustrent les enjeux. La lenteur des progrès, c'est des voitures électriques séparées par un siècle de distance. La voiture du haut, une voiture belge des années 1895, baptisée la jamais contente, parce qu'elle a toujours besoin de recharger ses batteries, batteries au plomb, 20 ou 30 km d'autonomie. Mais c'est la première voiture qui a franchi les 100 km à l'heure sur route en 1899. Et à l'époque, on a dit, ça c'est une rupture au plan technique du transport, 100 km à l'heure sur route, hein, c'était la terreur. Bon. La voiture du bas, c'est une voiture qui a un beau look, une voiture de sport américaine produite par un constructeur qui s'appelle Tesla en Californie et 300 ou 400 km d'autonomie, batterie au lithium. Donc on voit 100 000 dollars. Hein, bon. On voit que les progrès ont été très lents en Asie, qu'ils sont réels, mais que c'est quand même un enjeu. Y a-t-il des ruptures possibles ? Peut-être, le lithium en est une, hein, on allège, c'est le plus léger des métaux, on a allégé les batteries. Bon, donc ça c'est un problème qui demeure. Bon, je passe là-dessus. Il y a des questions clés qui demeurent, c'est le problème du prix de l'énergie. Les économistes disent, dans les années qui viennent, le prix du baril de pétrole, il oscillerait entre 100 dollars ou 110 dollars, ou en ce moment il doit être à 105, le baril est de 120, ça va dépendre de la reprise économique, etc. Le prix d'électricité, notamment l'électricité venant des sources renouvelables. Aujourd'hui, l'électricité produite par le réseau, par les centrales au charbon ou le nucléaire en France, c'est entre 4 et 5 centimes d'euros le kilowattheure à la sortie de la centrale, hors taxes, hors prix de transport et de distribution. Hein. Il y a à peu près un accord, mais bon, pas tout le monde. On voit prix européen que les kilowattheures éoliens terrestres est à 6-11 centimes, donc il n'est pas loin de la compétitivité avec le kilowattheure, disons, turbine à gaz ou charbon, pas très loin. L'offshore, il est beaucoup plus loin, dans une fourchette de 11 à 15 centimes d'euros, bah parce qu'il faut se mettre en mer, tirer des câbles, etc. Bon. Et peu développé. Quant au solaire, il est dans une fourchette de 20 à 52 centimes d'euros. Il est donc très loin. Les Espagnols sont probablement dans le bas de la fourchette. Bas de la fourchette, avec le solaire à concentration en Andalousie. Bon. Donc on voit que là, hein, il y a quand même des progrès à réaliser. Donc on va vers une hausse inéluctable du kilowattheure électrique dans les années qui viennent. Alors, je reviens sur le gaz de schiste. Hein, rapidement, vous avez présenté cette courbe. Y a-t-il une nouvelle donne avec le gaz de schiste ? Par parenthèse, ça fait à peu près 7 ou 8 ans. Hein, on voit que ça commence à démarrer ici, la production de gaz de schiste, hein, Shell Gas, hein, aux États-Unis. Et que les publications sur la fracturation hydraulique pour exploiter le gaz ou le pétrole de schiste datent de 1957. Donc on savait que la faisabilité de la technique. Et ce sont des petits producteurs ou des moyens producteurs. Ce n'est pas les grands, ce n'est pas Exxon pour les États-Unis ou Chevron, etc., qui se sont lancés là-dedans, mais des producteurs moyens qui ont pris le risque parce qu'ils avaient la technique de fracturation de se lancer dans l'affaire. Et donc, bon, ça a été dit tout à l'heure, hein, aujourd'hui, 25% du gaz américain est produit par cette technique et les Américains sont devenus les premiers producteurs mondiaux de gaz. Bon. Alors, ils disent, ça va continuer. Le problème des bas français est que l'Amérique, c'est pas l'Europe et que le sous-sol n'est pas le même, le droit du sol n'est pas le même. Il y a des endroits aux États-Unis, au Texas, où il n'y a pas un chat, et donc vous pouvez, il n'y a pas beaucoup d'eau aussi. Bon, enfin, bref. Et donc, vous n'avez que des dégâts environnementaux limités. Il y en a, semble-t-il, quand même, dans le nord-est des États-Unis, où il semblerait qu'il y ait des infiltrations de méthane dans des nappes phréatiques. Alors, comment on fait ? Je vais revenir dans un instant sur l'hydrate de méthane, juste ce chemin-là. Bon, ben, on perce, on fait un forage vertical pendant 2 à 3 000 mètres, parce que le gaz, il est très profond. Il est en dessous de la nappe phréatique. Mais vous forez peut-être dans la nappe phréatique, ensuite vous déviez et vous faites des fissures avec de l'eau sous pression. Vous mettez toute une série de produits chimiques, dont des gélifiants, hein, le guar, hein, pour élargir les failles, et vous pompez le gaz. Bon, donc le problème, il est, y a-t-il des infiltrations dans la nappe phréatique venant du gaz ? Pas certain. Mais venant depuis mal cimenté ou mal calfeutré, appelez ça comme vous voulez, probablement que les infiltrations de gaz dans la nappe phréatique viennent de défaillances sur le puits. Bon. Contamination par des produits chimiques, il y en a eu, mais probablement par des eaux de surface, c'est-à-dire que l'eau qu'on a repompée et qui contenait des produits chimiques qui aident à la fissuration, ils ont stocké sur la surface. Ça s'est infiltré très probablement dans la nappe phréatique. Donc, qu'il y ait des risques environnementaux, c'est certain. C'est certain. Ils ont fait ça parce qu'en plus, la protection de l'environnement, je ne dis pas que les Américains s'en moquent, mais disons que les droits ne sont pas les mêmes. Bon. Alors, peut-on faire ça en Europe? Il y a débat. Hein. Il y a débat, on pourra en reparler tout à l'heure. Il y a débat. Je pense que, pour ma part, je vous donne mon point de vue, il faudrait à tout le moins expérimenter. Le malheur, c'est que les législateurs, ils ont pris une décision unanime, gauche-droite, hein, en 2011, pour dire qu'il ne fallait pas faire de fracturation hydraulique. Mais hydraulique, ça ne veut pas dire nécessairement eau. Et ils ont cru que fracturation hydraulique, c'était, l'eau, sous pression qu'on utilise. Parce que vous pouvez utiliser d'autres fluides que l'eau. Hein, vous pouvez utiliser d'autres fluides. Par exemple, le propane. Risque d'explosion. Mais il y a d'autres fuites possibles. Ou alors, ce que disent un certain nombre de producteurs, peut-être de ne pas mettre autant de cochonneries hein, pour faire la fissuration dans l'eau. Donc là, la loi a été, de mon point de vue, votée un peu en précipitation. À tout le moins, mon point de vue, c'est qu'il faudrait expérimenter. Ce que n'interdit pas la loi. Donc le débat est ouvert, mais aussi en prenant en compte le fait que l'Europe n'est pas les États-Unis. Le droit est différent, les problèmes d'investissement sont très différents. Un dernier point, je reviens en arrière, parce que là, c'est une percée, c'est le cas de dire, puisque c'est un forage, les hydrates de méthane. Les Japonais ont fait une percée majeure, en mars dernier. Le Japon est pris à la gorge en arrêtant ses centrales nucléaires. Ils en ont remis deux en marche. Et donc, ils importent massivement du gaz ou du charbon pour faire marcher des turbines à gaz. Et il existe sur les marges continentales ce qu'on appelle des hydrates de gaz. Qu'est-ce que c'est? C'est une molécule de méthane qui est enchâssée, disons, dans un cristal de glace. Basse profondeur, mettons 2000 mètres, ça fait 200 bars. Hein, je raisonne en bars, hein, je devrais peut-être raisonner en pascal. Bon, enfin bref, 200 bars, 2-3 degrés, donc basse température, haute pression. Et donc, vous avez un solide qui contient du méthane. Un solide qui contient du méthane, par forage, vous faire dégazer. C'est ce qu'ont fait les Japonais sur un bateau de forage, par 1000 mètres de fond, ce qui n'est pas considérable, et pendant 6 jours. Alors que jusqu'à récemment, on estimait que c'était trop dangereux de le faire, que c'était peut-être faisable, et d'ailleurs les foreurs le savent, hein, parce que quelquefois ils tombent sur des couches d'hydrate de méthane, et à ce moment-là ils arrêtent parce que c'est explosif, hein, mais là c'est véritablement une percée, et les réserves d'hydrate de méthane sur les plateaux continentaux ou dans le permafrost de la Sibérie ou du Canada sont considérables. Donc pour dire que là, on n'est pas à l'abri, si je peux dire, de rupture. Bon, je termine. Conclusion, la transition énergétique, elle est inévitable en fonction de ce qu'on a dit, mais peut-être qu'elle durera probablement plus longtemps qu'on le pense, 30 à 40 ans, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut peut-être pas atteindre, la limite des 2 degrés en y mettant les moyens, mais ça prendra plus de temps qu'on ne le dit souvent, parce qu'il y a des obstacles techniques à vaincre, hein, s'agissant des renouvelables en particulier. Et je dirais que l'énergie de demain, bah, il faut être pragmatique. Tenir compte des contraintes, notamment climatiques, mais il faut faire feu de tout bois, si je puis dire. C'est du fossile, du bois, oui, des biocarburants, de la biomasse, de renouvelables et nucléaire. Je pense que c'est un point de vue donc, un peu du pragmatisme. Il faut réfléchir et faire marcher ces ménages, notamment par la recherche, pour savoir comment faire sauter les verrous techniques et éventuellement préparer l'avenir par la recherche. Bon, c'est un ancien chercheur qui parle et donc qui prêche évidemment pour sa chapelle, hein, mais qu'après 2030, la recherche peut sans doute changer la donne. Voilà. Bon, je termine souvent en citant cet économiste que vous connaissez peut-être, John Maynard Keynes, qui a dit, je crois qu'il est économiste, hein, là, pour un économiste, c'est pas mal vu, hein. L'inévitable n'arrive jamais alors que l'inattendu arrive toujours. Donc, y compris dans le domaine de l'énergie, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à l'avenir, mais qu'on peut être surpris par l'inattendu. Je vous remercie. Merci.
Donc, merci beaucoup et je pense que je vais tout de suite donner la parole à la salle parce qu'il risque d'y avoir un champ de questions sur ces questions d'énergie, à la fois peut-être des questions adressées à M. Demenet et à M. Papon.
Merci M. Papon de votre énergie.
Bonjour, merci, je suis ici. Merci beaucoup. Une question sur le nucléaire. Vous n'avez pas beaucoup parlé des déchets nucléaires. Donc, du coup, je vais vous embêter un peu là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Où en est-on du traitement des déchets ? Est-ce que ce n'est pas un problème de créer des déchets, de ne pas savoir les traiter réellement et de les laisser, du coup, aux générations futures ? Un peu comme Axel Gosry nomme cette idée-là de, finalement, on délègue des véritables bombes à retardement aux générations futures. Est-ce que ça ne pose pas un problème en termes de transition en faveur du nucléaire, justement ? Et puis une autre question, mais du coup vous avez un peu répondu dans la conclusion, je crois, c'est en relation donc avec le principe de précaution dont on a parlé un peu tout à l'heure en parlant d'innovation. Finalement, là votre travail, c'est d'essayer de réduire l'incertitude qui a trait aux possibles innovations qui existent. Et donc ma question, c'est est-ce que finalement vous pensez que cette incertitude-là, elle peut être réellement réduite? À fond. Est-ce que on peut détruire cette incertitude-là, ou bien est-ce que il reste toujours un zeste d'incertitude et du coup il est nécessaire d'en tenir compte dans les choix qu'on peut faire en termes de transition.
Bon, réponse rapide à votre première question. Moi, je suis d'accord avec vous. Les déchets nucléaires, c'est l'épine majeure dans le pied du nucléaire. Hein, c'est clair. Hein, et on ne parle pas beaucoup. On dit, bon, on va les enfouir sous terre, là, à Bure, dans la Meuse ou dans l'Aube, sous forme solide, solidifiée, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même légué, vous l'avez dit, aux générations futures, des déchets qui vont être gérés pendant 1000 ans, 2000 ans, etc. C'est quand même un problème. Alors, je réponds en même temps à votre deuxième question. On ne peut pas exclure. Moi, je suis un peu optimiste. Il ne faut pas être optimiste en se cachant la réalité des choses d'aujourd'hui, les contraintes, etc. Mais on ne peut pas exclure non plus que le problème des déchets, il est déchets à durée de vie longue. C'est ça le plus inquiétant, si je puis dire, et déchets à durée de vie courte. Hein. Le plutonium, qui est un déchet à durée de vie longue, on peut sans doute s'en débarrasser si on l'utilise dans des réacteurs, quatrième génération, à condition qu'on soit assuré de leur sûreté, et on ne le sait pas encore. Hein, peut se débarrasser d'une partie du plutonium. Les autres déchets, les radionucléides à vie longue, on peut éventuellement, mais pour l'instant on ne l'a pas su le faire, les casser, si je puis dire, en petits morceaux, hein, pour avoir des déchets à durée de vie plus courte. Alors il y a un système qui a été proposé avec un accélérateur de particules. On envoie ça sur des particules sur du plomb. Il y a des neutrons qui sortent et ensuite on casse les déchets. Il y a un prototype en cours d'installation en Belgique au centre de l'Euratom de Mol. Bon. On peut peut-être y arriver, mais c'est un problème lancinant. Lancinant, et là, il y a une incertitude. Alors, je crois que la vertu de la science, si je puis dire, c'est de réduire les incertitudes. Dans le domaine du climat, vous en avez parlé, les modèles, il y a pas mal d'incertitudes dans les modèles climatiques. Mais on peut quand même, moyennant plus de données, une modélisation à plus petite échelle, donc avec des ordinateurs plus puissants, réduire peut-être les incertitudes pour dire non, c'est pas 2 à 6 mais 2 à 4 avec les distributions régionales dont on a parlé. Bon, c'est le rôle de la science d'essayer de réduire l'incertitude, mais il y en aura toujours. Moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre. Là, il y a une exposition sur le cerveau. Ici, les biologistes, ça n'a rien à voir avec l'énergie, quoique les biologistes disent, mais certains, on va comprendre les mécanismes de la conscience, etc. Moi, j'en doute. Je ne suis pas biologiste, donc j'en parle à l'aise. Mais j'en doute profondément. J'en doute profondément. Donc, la science doit réduire les incertitudes, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il y en aura toujours. Non, je ne vous ai pas convaincu.
C'est pas grave.
Je me permets de reprendre votre dernière phrase de John Maynard Keynes.
Oui.
Excusez-moi.
Non, mais...
Donc, vous avez parlé que c'était un économiste, certes, mais c'est aussi un financier. Oui. Et me permettrai de rajouter, l'inévitable n'arrive jamais, mais surtout le miracle n'arrive jamais. je pense que vous avez bien résumé un petit peu toutes les recherches et je vous en remercie, j'ai appris énormément de choses. Je pense qu'en France, ce n'est pas les idées qui nous manquent. Je pense qu'il y a eu une célèbre pub qui a dit qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Je pense qu'on a développé pas mal de choses. On a développé le plutonium, on a fait Marcoule, on a fait tout ça. On l'a fermé, on a fait les gaz de lac. On a toujours été à la pointe. Mais au final, la décision, je vais être volontairement provocateur, c'est les corps des mines qui ont décidé le nucléaire, sans se soucier du coût du démantèlement. Or, il y a toujours la fameuse problématique du déficit quid d'EDF et de la dette qui se prépare à être remboursée. Donc déjà, je pense qu'il y a à réfléchir un petit peu sur le long terme. Je pense qu'on développe certes plein de possibilités, mais c'est pareil, l'éolien, on l'a développé, on le finance via des tarifs réglementés, mais au final, c'est les Espagnols qui remportent les marchés. Donc, faudrait savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on privilégie les entreprises françaises, la recherche française, et on va jusqu'au bout des choses? Peut-être en simplifiant volontairement les démarches et en se concentrant sur une ou deux technologies. Certes, c'est bien d'avoir un mix énergétique, mais je pense qu'une certaine concentration des efforts d'investissement dans la maîtrise de technologies, je pense que ça a aussi un impact positif. Et voilà, enfin, moi, c'est ma perspective un petit peu de financier qui parle. Voilà. Je finirai donc par vous poser la question. Vous avez parlé des hydrates de méthane. Moi, je veux bien, mais arrêtons un peu la surenchère parce que les émissions de méthane, je ne sais pas si elles vont avoir lieu, mais c'est quand même 4 fois. L'influence, au moins, je pense, du carbone, enfin, sur ce que j'ai pu lire. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que finalement, on ne prend pas le problème à l'envers ? Voilà ma question, c'est tout.
Bon, ça fait beaucoup de questions. Simplement, je suis assez d'accord avec vous, et mon rappel historique visait un peu à dire ça. En remontant à la guerre de 14, si je puis dire, mais que l'énergie en France a été vue plus que dans d'autres pays comme un problème d'État. Hein. Développement de compagnie nationale du pétrole, hein, parce qu'il fallait faire face à des coups durs, guerre de 14, d'où la création de Total, après la guerre de Delphes absorbée par Total. Le nucléaire, de la même façon, confié au commissariat à l'énergie atomique pour des raisons... C'était pas au début le corps des mines. Hein, pour des raisons, je dirais, stratégiques, hein, parce que le nucléaire, il s'est développé en France, comme aux États-Unis, comme en Russie, ou l'URSS et en Angleterre, parce que il y a eu Hiroshima, hein, c'est clair. Hein, c'était considéré comme stratégique. Donc, on a misé sur le pétrole et le nucléaire pour des raisons stratégiques au sens large, avec des effets industriels qui ne sont pas négatifs quand même. La filière française, au plan industriel, elle tient la route. Les pétroliers français, maintenant, il n'y en a plus qu'un, encore que dans le parapétrolier, il y en a pas mal, hein, et elle tient la route, hein, au plan industriel, et donc il y a des résultats. Mais c'est vrai que d'autres pays comme l'Allemagne n'ont pas eu du tout cette même approche, et en particulier parce qu'ils ont un réseau d'entreprises moyennes, hein, très développées techniquement. Ils peuvent, dans le domaine des énergies renouvelables, effectivement prendre des positions. Ils ont pu prendre des positions maintenant qu'ils perdent dans le domaine du solaire. Bon, je reviens en arrière. Cette politique d'État menée par CEA, EDF, etc., non sans succès, elle a aussi des effets négatifs. Moi, je les ai connus quand j'étais directeur du CNRS. Hein, je dis, EDF a saboté le développement du solaire en France. Hein, la France avait pris de l'avance dans le domaine du solaire, notamment photovoltaïque, mais aussi le solaire à concentration dont je n'ai pas parlé. EDF a commencé à mettre les doigts dedans. Et puis, après le premier choc pétrolier, hein, le pétrole est retombé. On a dit, ça n'intéresse plus, on met la clé sous le paillasson. Et donc, ils ont saboté les débuts des efforts français dans le domaine du solaire. Ça, je suis affirmatif et je l'ai vécu. Alors vous dites, est-ce qu'il ne faut pas se concentrer, hein, c'est un peu aussi ce qu'on a fait sur le nucléaire et le pétrole. C'est vrai qu'on est un pays aux moyens limités, hein, la France est une puissance moyenne comme l'Allemagne, bon, même si industriellement l'Allemagne est mieux dotée que nous, et qu'on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais dans le domaine de l'énergie, il faut, comme dans d'autres secteurs aussi d'ailleurs, les effets transversaux peuvent jouer. Les effets transversaux peuvent jouer. Ce que j'ai dit sur la biologie pour les biocarburants, la biologie de synthèse, je dirais, ça n'est possible des développements industriels que si on met le doigt dans toute cette biologie synthétique, pour l'instant au stade préliminaire de laboratoire, et que des entreprises à terme, dans 5 ou 10 ans, puissent se lancer là-dedans. Donc si on fait une impasse, on risque de le payer. Les Allemands peuvent payer peut-être cher le fait qu'ils ont fortement investi dans le solaire et que maintenant leurs entreprises, Siemens par exemple, Bosch, qui sont des grosses sociétés allemandes qui avaient beaucoup investi dans le solaire, mettent là aussi la clé sous le paillasson et disent on ne peut pas résister aux Chinois, on fait autre chose. Donc il faut être prudent, hein. C'est jamais complètement blanc ou noir dans la science et la technique. Même si c'est vrai, des efforts de spécialisation peuvent être payants. Je suis d'accord, et le cas du nucléaire et le cas du pétrole, pour la France, le monde. Donc, oui et non, réponse de Normand.
Donc, vous avez beaucoup parlé de comment modifier l'approvisionnement énergétique. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé de comment améliorer l'efficacité énergétique en France. Je pense notamment aux bâtiments qui sont très consommateurs d'énergie et on pourrait quand même réduire énormément la consommation énergétique française. Donc sans trouver de nouvelles sources, diminuer les apports d'énergie fossile.
Vous avez 100 fois raison, je crois que vous l'avez un peu dit aussi, peut-être que demain, je ne renvoie pas sur, me défausse pas sur les orateurs de demain, mais c'est vrai que dans le domaine, le bâtiment, c'est 43% de la consommation d'énergie finale en France. Donc, bâtiment, aussi bien vos maisons, appartements, cette salle, etc. Tout compris. Techniquement, on sait faire, je pense. On sait isoler thermiquement les bâtiments. Il n'y a pas besoin, je dirais, de rupture technique. Le problème, il est financier. C'est dans le débat sur la transition énergétique actuelle, l'objectif qui est dans l'air, si je puis dire, c'est une rénovation de 500 000 bâtiments résidentiels par an. Un coût moyen probablement de 20 000 euros le bâtiment résidentiel, maison, appartement, etc. Faites la multiplication, ça fait pour 500 000, ça fait environ 10 milliards d'euros par an à payer par les particuliers ou les offices d'HLM. Donc il faut faire de l'ingénierie financière là pour trouver. La Caisse des dépôts, d'après ce que j'entends dire, pense à un certain nombre de solutions pour aider les offices d'HLM, les particuliers, etc. Mais il faut trouver l'argent en période de crise économique. Et là, je me suis concentré sur les ruptures, mais il n'y a pas besoin de ruptures. Sur le bâtiment, il n'y a pas besoin de ruptures. Ça pose le problème aussi de la ville. La ville, dans 20 ans, la ville post-carbone, comment l'organiser, des transports en commun, etc. Ce qui est un vrai sujet de réflexion. Les Allemands, les Nordiques ont pas mal réfléchi à la question. Ça commence un peu en France. L'agglomération de Tours, qui n'est pas très loin, a pondu des scénarios sur l'agglomération de Tours dans 20 ans, un scénario énergétique. Je ne sais pas si ici il y a eu des débats analogues, mais ça commence un peu ces sujets-là à diffuser. Ça, c'est un vrai sujet de société. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup besoin de rupture, sauf dans le domaine des transports quand même. Si on veut passer à la voiture électrique, il faut quand même des batteries, des systèmes de recharge rapides, etc.
Bon, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Papon. Merci beaucoup. Vous trouverez les interventions de nos intervenants, c'est le cas de le dire, sur le site internet de l'Espace Mendès France. On le fera mettre sur le site et on le mettra en lien avec l'école doctorale. Hein, donc vous aurez toutes les interventions.
J'ai quelques brochures. Là,
oui,
c'est pas,
alors.
C'est pas de la propagande. Hein,
non, non, il y a quelques brochures. Donc les premiers arrivés les auront.
C'est la politique énergétique française, une conférence que j'ai faite en décembre. Ils m'ont demandé de la mettre par écrit. Je vous en laisse quelques tirés à part.
Donc, si vous voulez visiter l'exposition sur le cerveau, je vous invite à monter. Puis sinon.
À quelle heure c'est le.
18h15.
Alors, le cerveau, c'est sur quel étage
C'est au premier. De toute façon, pour monter par les hôtesses.
Bon, pour le cerveau, c'est donc au premier étage, enfin, à l'étage plus haut. 18h15, c'est ça 18h15 pour le planétarium, 19h15 pour le bus en face. Et on se retrouve, moi je vais partir, on se retrouve devant le restaurant pour l'entrée.
En tout cas, merci.
Ben, de rien, de rien.
Il y avait des questions que je te poserai plus tard. Ça serait pas...
CO2 par kilowattheure,
Alors j'ai un peu élagué sur
les. Ah oui,
ça a fait des débats entre l'ADEME, EDF, pendant de longues années. Les kilowattheures en plus, tout ça, où on faisait marcher du charbon et tout ça, alors sans que tu moyennes sur l'année. Tu prends en compte les périodes. Et ce qui fait que, en fonction des usages. Je produis.